VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Actualité américaine, 2 mois après un coup de fil retentissant avec Taïwan, le président Donald Trump a apaisé la Chine en assurant un homologue chinois, Xi Jinping, au téléphone, qu'il respecterait le principe d'une seule Chine. Et puis, le président des États-Unis reçoit aujourd'hui à Washington le premier ministre japonais, Shinzo Abe, avant de s'envoler avec lui pour un week-end de golf en Floride, avec la volonté affichée de tisser des liens personnels entre les deux leaders. Deuxième dirigeant étranger à se rendre à la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, M. Abe est en quête d'assurance sur l'avenir de l'alliance américano-japonaise, notamment face à la montée en puissance de son imposant voisin chinois. On reste aux États-Unis. Le président américain a qualifié ce matin de décision scandaleuse le jugement de la Cour d'appel de San Francisco la veille, qui a maintenu la suspension de son décret très controversé interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. L'administration Trump avait demandé à ce tribunal d'annuler l'ordonnance de suspension prise en première instance et en urgence le 3 février par le juge fédéral James Robart de Seattle dans l'État de Washington. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Pour les 3 juges, le gouvernement n'a pas démontré que son appel a des chances de succès. Quant au fond, il n'a pas non plus démontré que maintenir la suspension du décret causerait de graves atteintes à la sécurité des États-Unis. Rendez-vous au tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu, a tweeté le président Trump peu de temps après la publication de la décision de la Cour d'appel. S'adressant à des journalistes, il s'est plaint plus tard de ce qu'il a appelé une décision politique en assurant que son administration finira par avoir gain de cause très facilement. Pour sa part, le ministre de la Justice de l'État de Washington, Bob Ferguson, qui a plaidé contre le décret migratoire, a déclaré lors d'une conférence de presse à Seattle « Nous sommes une nation de lois et ces lois s'appliquent à tout le monde dans le pays et cela inclut le président des États-Unis. À mon avis, l'avenir de la Constitution est en jeu. On s'attend maintenant à ce que ce cas finisse devant les juges de la Cour suprême des États-Unis. »
Idrissa Sedoudi a demandé au professeur Edgar Colli de l'Université de Monterey en Californie ce que le maintien de la suspension du décret migratoire du président Trump par la Cour d'appel de San Francisco signifiait pour ceux qui veulent se rendre aux États-Unis.
Pour le moment, c'est vraiment effrayant parce qu'il y a des gens qui disent « Est-ce que je serai bloqué ?» J'arrive aux États-Unis, je veux sortir et revenir, je suis bloqué. Je suis à l'intérieur des États-Unis, puis sortir et revenir, je suis bloqué. Alors, il y a une incertitude puisque M. Trump et son administration ne vont pas, de mon point de vue, accepter la décision de la Cour d'appel. Donc cela veut dire que nous allons encore traîner la question pendant quelques semaines. Et c'est vraiment une incertitude qui est tellement stressante pour les gens qui veulent sortir ou entrer, surtout des gens qui porteraient des noms qui ne se ressemblaient pas aux noms anglo-saxons.
Le fait est que depuis que la Cour de Washington a pris la décision de suspendre le décret, le Département d'État a permis aux gens qui ont des visas de continuer à venir.
Effectivement, parce que du moment que ce décret a été bloqué, les gens qui avaient déjà des visas, ceux qui étaient ici détenteurs de la carte verte, on a réinstallé leur droit de sortir et d'entrer. Mais ceci quand même pose une question de fond. Puisqu'il y a une incertitude qui est encore là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que immédiatement après la décision de la Cour d'appel de San Francisco, M. Trump a sorti un tweet qui disait « Je vous retrouve au niveau de la Cour ». Donc j'ai l'impression que cela va continuer, il ne va pas accepter la décision de la Cour d'appel. Donc pour les gens qui veulent partir ou revenir, cette incertitude est quand même assez difficile à supporter.
Mais sur le plan juridique, rien ne les empêche de partir ou de revenir.
Oui, pour le moment, rien. Mais dans le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, bien entendu, avec le blocage de la Cour d'appel, cela veut dire que ceux qui ont des documents légaux peuvent partir, peuvent entrer dans ce pays comme ils l'entendent. Maintenant, la perspective d'une lutte juridique dans le futur, c'est cela l'incertitude.
Edgar Colli, professeur à l'Université de Monterey en Californie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Catastrophe ferroviaire des ECA au Cameroun. La justice française s'est déclarée incompétente pour mener une enquête Dans cette affaire mettant en cause Camrail, la filiale camerounaise du groupe français Bolloré. En octobre dernier, un train qui assurait la liaison entre Yaoundé et Douala a déraillé près de la gare d'Esseka, faisant 79 morts et au moins 550 blessés. Anastasie Toudjèche.
Après la catastrophe, plusieurs organisations camerounaises s'étaient portées partie civile et avaient déposé plainte à Nanterre, notamment pour homicides et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les plaignants mettaient en cause la gouvernance du transport ferroviaire par l'État camerounais et s'interrogeaient sur les conditions de privatisation de la Société nationale des chemins de fer. Camrail est contrôlé à plus de 77% par le groupe français Bolloré, dont le siège est près de Nanterre. Porter plainte dans cette ville, c'était pour l'avocat des plaignants le moyen d'agir au plus près de celui qui contrôle le capital. Mais le parquet de Nanterre s'est dit incompétent car les victimes françaises ne vivaient pas à Nanterre. Une enquête judiciaire est en cours au Cameroun.
En RDC, arrestation du leader d'une secte à la base de tuerie répétée à Butembo, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'homme est surnommé le boucher de Butembo et il a été arrêté avec deux de ses complices. Plus de détails avec Eddy Isango.
La secte appelée les Corps du Christ est accusée d'être à la base de certaines des tueries dans les grands nord de la province du Nord Kivu. L'homme arrêté, David Maranata, en est le chef. Il a été appréhendé avec deux de ses acolytes, selon le porte-parole des opérations des FRDC dans la région, le lieutenant Mac Azoukai, joint par VOA Afrique. C'est lui qui, selon le lieutenant Azoukai, est le présumé auteur de la décapitation l'année dernière des plusieurs policiers dans les quartiers Fourou, dans la banlieue de Butembo. Le boucher de Butembo, comme il est surnommé, avait également, selon l'armée, organisé une expédition militaire contre des positions de la MONUSCO et avait tué un casque bleu et un militaire congolais. Comme les ADF et les Mai Mai, la secte est accusée de tuer ses victimes à la machette et autres armes blanches.
En RCA, au moins 20 combattants ont été tués dans la localité aurifère de Ndassima, à une quarantaine de kilomètres de Bambari, dans le centre du pays. Des affrontements opposent deux factions rivales de l'ex-rébellion Seleka et les populations, déjà meurtries par plusieurs années de tueries et de massacres, fuient dans toutes les directions. Au micro d'Idriss Fall, les explications d'Yvan Lou, représentant du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, à Bambari.
Il y a énormément de mouvements de population. La ville de Bakala s'est presque entièrement vidée. Pas mal de gens qui fuient sur l'axe de Ndassima. Il y a pas mal de gens qui sont partis également. Enfin, Ndassima moins, parce que Ndassima est un carré minier. Mais la ville de Djoubissi, qui se trouve en amont, s'est vidée. Et alors, sur l'axe, en Haute-Koto, sur l'axe entre Bria et Ipi, il y a eu également pas mal de mouvements de population. Les gens ont peur et fuient les combats. D'autant plus qu'il y a une petite dimension ethnique qui risque toujours de pointer. Les groupes sont quand même stéréotypés. Il y a des gens qui fuient parce qu'ils ont peur d'être pris pour cible.
Mais en fait, ces deux groupes qui se battent sont majoritairement musulmans, notamment le groupe de Nureddin Adams et Ndaras Kiepel.
Oui, ce sont des groupes de musulmans. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. Mais après, les groupes sont identifiés par rapport à des ethnies qui sont différentes. Même si les groupes ne sont pas du tout homogènes, il y a une certaine importance qui est perçue, à tort ou à raison, mais qui est perçue comme telle.
Yvan Lou, le représentant du CICR à Bambari, en Centrafrique. Et pour terminer, conflit au Yémen, trois agences de l'ONU ont lancé ce vendredi un appel à une aide d'urgence pour éviter une catastrophe humanitaire au Yémen. John Lyndon.
Selon une évaluation réalisée par l'OPAM, la FAO et l'UNICEF, plus de 17 sur les 27 millions de Yéménites ont des difficultés à se nourrir. 7 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit 3 millions de plus qu'à l'été 2016. Le taux de malnutrition a atteint le seuil critique de plus de 15% de la population dans quatre régions. La vitesse à laquelle la situation se détériore est extrêmement préoccupante, a déclaré Salah El-Hadj Hassan, représentant de la FAO au Yémen. Steven Anderson, directeur du PAM, a prévenu que 7 millions de personnes risquaient de ne pas pouvoir survivre si la situation devait perdurer. Chez les enfants, l'UNICEF parle de taux de malnutrition jamais atteint. Le Yémen est déchiré depuis 2015 par un conflit qui a fait plus de 7 400 morts et plus de 40 000 blessés. Mercredi, l'ONU a réclamé un peu plus de 2 milliards de dollars pour aider rien que cette année 12 millions de personnes affectées.
Merci de votre attention.